France Culture, il est 16h. Tout de suite, Révolution médicale, René Friedman.
Révolution médicale. Une émission de René Friedman. Aujourd'hui, avec
Olivier Patay
et
Antoine Andremont.
Voilà, nous sommes réunis pour parler des antibiotiques, de la résistance aux antibiotiques, des problèmes que cela pose et peut-être, et nous l'espérons, certaines alternatives que nous allons discuter avec nos deux invités. Le 29 novembre 1942, il y a à Boston un incendie dans une boîte de nuit qui entraîne 400 morts et plus de 200 victimes. Victimes brûlées, survivantes, mais qui vont bénéficier, je dirais, de deux avancées médicales, qui vont être d'une part les transfusions de plasma, et d'autre part de l'administration d'un produit qui est amené sous escorte policière de 592 kilomètres entre New Jersey et Boston, à travers quatre États, pour traiter les risques d'infection du staphylocoque. C'est donc le début de la réalisation des traitements de la pénicilline qui débute avec cet accident redoutable. Fin 2015, le professeur Jinhua Lin à Shanghai fait une analyse de certaines bactéries portées par des porcs et constate que le gène MCR1 est présent et qu'il est résistant à tous les antibiotiques. Donc entre ces deux événements, alerte sur la possibilité d'une pan-résistance, c'est-à-dire une résistance globale aux antibiotiques, qu'il faut donc regarder avec précaution. Avec nous, le professeur Antoine Andremont, vous êtes professeur de microbiologie, vous êtes pédiatre, vous êtes passé à Madagascar, aux USA, vous êtes responsable du laboratoire de Bichat-Claude Bernard, qui est le centre de référence des maladies infectieuses, et votre travail s'est porté surtout justement sur l'évolution de la résistance des bactéries et sur ces redoutables infections nosocomiales sur lesquelles nous reviendrons. Vous avez publié un livre qui s'appelle « Antibiotiques, le naufrage, notre santé en danger », publié chez Bayard. Vous êtes inventeur d'un certain nombre de brevets et vous êtes vraiment intéressé à l'impact des antibiotiques sur la flore commensale et sur son rôle dans l'émergence et la dissémination mondiale des résistances qui peuvent exister. Nous allons donc revenir sur toutes ces questions ensemble et nous avons avec nous le docteur Olivier Patay, qui est praticien hospitalier en maladies infectieuses et tropicales, qui est consultant donc surtout au centre hospitalier sud francilien et à Villeneuve-Saint-Georges.
Essentiellement Villeneuve-Saint-Georges.
Essentiellement Villeneuve-Saint-Georges. Et vous êtes impliqué dans ce qu'on appelle la phagothérapie. En tous les cas, une possibilité de traitement de l'infection qui fait appel non pas aux antibiotiques, mais aux phages, connus depuis plus d'un siècle, laissés de côté. Et nous allons reprendre un petit peu toutes ces histoires ensemble pour mieux comprendre les problèmes qui se posent. Alors, tout d'abord, professeur Antoine Andremont, comment se fait-il que du triomphe des antibiotiques, on arrive à cette impuissance possible, potentielle, des antibiotiques?
C'est effectivement une excellente question et une surprise formidable pour les médecins de ma génération d'avoir vu ces médicaments miracles devenir des médicaments en danger. Cela aboutissant à ce qu'un certain nombre de patients ayant beaucoup de difficultés à être traités. D'emblée, il faut dire que c'est pas du tout un problème qui est limité à la France, c'est un problème mondial. On ne pourra trouver les solutions que dans le monde. Et il faut dire aussi que, comme très souvent, le tiers-monde est extrêmement impacté, avec des risques très forts pour la population.
Pourquoi est-ce qu'il est plus impacté?
Parce que c'est au jour d'aujourd'hui là où le plus d'antibiotiques sont fabriqués et produits. Les antibiotiques, comme vous l'avez dit, sont des vieux médicaments. Ils sont devenus des génériques maintenant depuis un certain nombre d'années. Dans le monde d'hier, ils étaient produits dans les pays du Nord, hein, c'était des molécules chères. Maintenant, ce sont des génériques produits dans le tiers-monde, très bon marché. Et le fait que ces médicaments soient devenus très bon marché a abouti à ce qu'ils soient très utilisés et surutilisés. Et ce dont on va discuter largement ce matin, c'est que ce dont nous souffrons, c'est pas tellement d'un manque de nouveaux antibiotiques. Ce dont nous souffrons le plus, c'est d'une mauvaise utilisation des antibiotiques que nous avons au jour d'aujourd'hui. Et c'est d'abord à ça qu'il faut s'attaquer.
Et ça, l'un et l'autre, Olivier Patet comme Antoine Andremont, vous alertez justement sur la bonne utilisation absolument fondamentale des antibiotiques. Mais avant de plonger dans les inquiétudes, j'aimerais qu'on revienne sur le triomphe des antibiotiques, un peu l'histoire quand même assez fabuleuse, en particulier de la découverte de la pénicilline. Pour ne parler que celle-là, mais on parlera aussi peut-être de la streptomycine. Donc, Alexander Fleming, un grand homme ?
Certainement, un esprit très curieux, très brillant, qui a su reconnaître, lors d'une expérience de hasard, la très grande découverte.
Alors, de hasard, comme toujours en médecine, il n'y a pas de hasard, mais en même temps, il y a du hasard, c'est-à-dire qu'il avait laissé ses moisissures,
il était
parti en vacances.
Assez désorganisé dans son laboratoire, et il n'avait pas tout rangé avant de partir en vacances, et ça aboutit,
Quand il revient, il regarde.
Il regarde une boîte, et sur cette boîte, il voit qu'il y a un champignon, une espèce de moisissure, là, comme on en voit sur nos fruits ou nos légumes, qui s'est développé et qu'autour de cette moisissure, des staphylocoques n'arrivaient plus à se multiplier.
C'est ça, ils cultivaient des staphylocoques dans des boîtes et puis là, ils s'aperçoivent
qu'autour de la moisissure, ils sont tués. Et au lieu de mettre ça à la poubelle, ils se rendent compte que c'est quelque chose d'intéressant. C'est comme toujours dans les hasards et dans les découvertes, il était très préparé, il avait vécu la guerre de 14 et il avait vu les épouvantables infections des plaies et depuis de très nombreuses années il cherchait quelque chose contre les staphylocoques, donc son esprit était ouvert.
Oui, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'à cette période-là, les infections c'est absolument redoutable.
Redoutable hein. Et sans beaucoup de solutions.
Et il va avoir son histoire, et il va traiter son assistant qui a une conjonctivite, et donc il lui verse dans l'œil un peu de pénicilline, qui va avoir du mal à fabriquer,
bien sûr.
Entendu.
Hein. Et ça marche très bien, mais au début on n'arrive pas du tout à fabriquer ce produit de façon industrielle.
Il va se décourager.
Et heureusement, à Oxford, quelques années plus tard, un petit groupe de gens, et notamment au début de la guerre, vont remettre le pain sur la planche et surtout aller aux États-Unis.
C'est-à-dire que c'est Ernst Borrichsen qui fuit le nazisme en 1939, qui va à Oxford, et qui du coup rencontre d'autres qui vont essayer de cultiver de façon plus industrielle, encore que ça va prendre un peu de temps, et qui va aller aux États-Unis. Le premier patient qui va recevoir, finalement, c'est Albert Alexander qui va se égratigner la joue avec une rose. Hein, c'est assez
comme
poétique.
Ça peut arriver à chacun d'entre nous en cultivant son jardin.
Voilà. Et puis, mais là, il va développer une infection. Et si on n'était pas intervenu, en tous les cas, avec la pénicilline, ça ne se serait pas passé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette Marie Lamoisie?
Ah ben,
Marie, plus loin, voilà, là, plus loin, le moisi.
Ça, c'est aux États-Unis, on s'est mis à chercher des moisissures qui étaient beaucoup plus efficaces pour produire la pénicilline que la première moisissure de Fleming. Et il y a une dame qui s'appelait Marie qui a amené un légume complètement moisi dans le laboratoire où elle travaillait. Et cette moisissure sur ce légume pourri s'est mis à être reconnue comme le meilleur producteur de pénicilline qu'on connaissait.
Donc là, on va avoir un développement enthousiaste, hein, et très positif. Avec en plus, c'est la guerre, hein, n'oublions pas. On est en période, et donc on a ce fameux slogan « Thanks to penicillin, he will come back ». Hein, c'est-à-dire que la pénicilline va sauver le soldat blessé.
La pénicilline, c'est... À ce moment-là, et c'est toujours d'une certaine façon, les antibiotiques en général, des médicaments miracles. Tous les médecins savent bien, et tous les patients savent bien que quand ils ont vraiment besoin d'antibiotiques, quand ils vont être sauvés par ces médicaments. Et ça marche tellement bien, les antibiotiques, que c'est ça qui fait que leur malheur en même temps, parce que c'est tellement efficace que est tellement facile à utiliser qu'on s'est mis à les utiliser de façon beaucoup trop importante chez des gens qui n'en avaient pas besoin.
D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que Fleming, quand il va recevoir le prix Nobel en 45, va dans son discours mettre déjà en garde sur une mauvaise utilisation des antibiotiques qui augmenterait les résistances. Hein. Donc lui, il est quelques années plus tard sa découverte, et déjà il met en garde. Alors, dans ces années-là, autour de 40-43, il y a aussi la découverte de la streptomycine contre la tuberculose, autre antibiotique.
Oui.
Particulièrement
efficace et miraculeux. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Une complication de la tuberculose qui était la méningite tuberculeuse était une maladie dramatique avec 100% de mortalité. Tous les malades mouraient. Et dès les premiers grammes de streptomycine, on s'est mis à sauver ces patients. Donc la réputation de médicament miracle des antibiotiques, elle n'est pas usurpée. C'est probablement l'une des toutes plus grandes découvertes de la médecine, en fait. Et encore une fois, c'est un médicament très simple à utiliser, et donc on s'est engouffré, comme dans beaucoup d'autres développements industriels, de façon beaucoup trop forte, pendant les 30 années qui ont suivi. Pendant les 30 années qui ont suivi, on s'est mis à utiliser les antibiotiques de façon massive, même chez les gens qui n'en avaient pas besoin, comme ceux qui ont une infection virale. Hein. On se souvient du slogan « les antibiotiques, c'est pas automatique ». Ça veut dire que quand on a un rhume, on n'a pas besoin d'antibiotiques. Mais on s'est mis à les utiliser très facilement.
Et ça crée des
résistances. Ça a créé des résistances.
La petite histoire de la découverte de la streptomycine est aussi intéressante, comme toujours, hein, parce qu'il y a toujours des parts de hasard, de conflits. Il y a Selman Waksman, donc, qui va s'approprier cette découverte avec son élève Albert Schatz, c'est pas si simple, hein, je veux dire, entre eux, c'est le moins qu'on puisse dire. Schatz en particulier va découvrir les actinomycètes, les bactéries, hein, je veux dire, qui vont permettre de sécréter donc cette streptomycine. On est dans une pleine extension, mais parallèlement à ça, il y a d'autres approches qui ont été faites. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un médecin français, Félix Derel, qui va utiliser des phages. C'est-à-dire des bactériophages. Les bactériophages sont des virus qui sont autour justement des bactéries. On les trouve dans les endroits les moins sympathiques, on va dire, les égouts, toutes les eaux stagnantes. Et ces phages vont être donnés en traitement, en particulier contre la dysenterie, puis ensuite vont être utilisés sur les infections avant même, puisque ça date donc 1919-1920, avant justement l'émergence, 20 ans plus tard, des antibiotiques. Alors ce qui est intéressant, c'est que, comme souvent, l'histoire des hommes est complexe, et Félix Derel, qui pourtant développe cette technique, va partir, à un moment donné, va être bloqué un peu, hein, je crois. Vous connaissez bien Olivier Patet, cette histoire, dans sa progression. Et du coup, va partir en Russie, à Tbilissi, l'Union soviétique plutôt, et va créer avec Georgi Eliana, va participer à l'Institut Eliana, qui existe toujours, hein, je crois.
Il est toujours présent, tout à fait. Il est toujours, toujours producteur de bactériophages et il continue à faire un petit peu de recherche également dans cet institut. Oui.
Et donc, Georgi Eliana, lui, va rester dans cet institut jusqu'en 1937, où le camarade Beria va le supprimer, va le faire supprimer, comme beaucoup. Mais l'institut continue quand même, d'une façon ou d'une autre, à produire. Alors, avec des conflits, hein, sur lesquels on va revenir, puisque, par exemple, l'Institut Pasteur s'est débarrassé de ses bactériophages en 1990, et qu'aujourd'hui, les choses reviennent avec une volonté, et vous en faites partie, d'étudier les choses scientifiquement, de savoir si oui ou non il peut y avoir une réponse qui ne soit pas les antibiotiques à certains types d'infections.
Alors, la disparition des bactériophages dans les années 80 n'est pas volontaire, c'est lié essentiellement à la fermeture des laboratoires de l'Institut Pasteur de Paris et de Lyon, qui avaient chacun un laboratoire de bactériophages qui a fermé suite de la retraite des chefs de laboratoire, et donc les bactériophages qui étaient disponibles, les banques de bactériophages, ont disparu avec la fermeture de ces deux laboratoires. Donc, en France, comme dans beaucoup de pays d'Europe de l'Ouest, il n'y a plus du tout de banque de bactériophages, qui est quelque chose qui, pour nous, est fondamental dans la prospective d'utilisation de ces bactériophages.
Oui, parce que les bactériophages sont spécifiques, c'est-à-dire ils vont plutôt attaquer telle ou telle bactérie, donc il faut une banque.
Tout à fait. Ils sont spécifiques d'espèces, et pour les bacilles à gram négatifs, en particulier les entérobactéries, ils sont encore plus spécifiques que ça. Ils sont souvent spécifiques de souches, ce qui entraîne des plus grandes difficultés par rapport aux antibiotiques qui ont un spectre beaucoup plus large et dont le mode de résistance est complètement différent.
Alors, pourquoi ce blocage du développement de la recherche là-dessus ?
Aujourd'hui ?
Oui, aujourd'hui, oui.
Aujourd'hui, le problème, c'est que on a plus de bactériophages utilisés dans les pays de l'Ouest depuis au moins 20 ou 30 ans. Et pour remettre sur le marché ce type de produit, il faut repasser par l'ensemble des réglementations actuelles du médicament. Les bactériophages étant considérés comme des médicaments, donc on a toute la procédure de médicaments à remettre en place avec les différents essais thérapeutiques, toutes les phases de
médicaments. Oui, mais ça c'est normal. Mais personne ne s'y intéresse, ça rapporte rien, qu'on les trouve n'importe où.
Alors on les trouve n'importe où, et donc ce n'est pas brevetable. En tout cas, les bactériophages individuels, pris individuellement, ce qui peut éventuellement être brevetable, ce sont des cocktails de bactériophages. C'est pour ça qu'il y a quelques structures qui commencent à travailler un petit peu dans ce domaine, mais avec des modifications faciles de ces cocktails, et donc une rentabilité qui est difficile à envisager, et qui fait en sorte que les laboratoires pharmaceutiques ne s'intéressent pas à ce type de produit, à ce type de recherche pour l'instant en tout cas.
Donc vous êtes un astérix, je dirais, qui dans le monde gaulois de l'infection essaye de développer.
Et on essaye de remettre effectivement un petit peu ça sur le marché, mais c'est pas spécifique, là encore, qu'on parlait tout à l'heure de la résistance, c'est pas spécifique à la France, que c'est dans toute l'Europe de l'Ouest, c'est comme ça, et aux États-Unis c'est pareil, il y a très très peu de personnes qui se sont lancées dans la tentative de réhabilitation de cette thérapeutique qui nous paraît être fondamentale. On parlait un petit peu tout à l'heure d'alternatives et de bactéries totorésistantes. C'est une des voies d'utilisation de ces produits, mais il y a une deuxième voie qui est également fondamentale, c'est l'utilisation sur des bactéries qui sont sensibles et qui, pour lesquelles le traitement est inefficace pour des tas de raisons, de biofilm, de l'accès à la
biofilm, pour nos auditeurs, comment ça fonctionne, les bactéries qui se regroupent et qui créent cette espèce de carapace et qui fait qu'ils sont inatteignables par certains antibiotiques? C'est ce qu'on appelle le biofilm?
Oui, la nature est ainsi faite que les bactéries vivent en groupe. Effectivement, très souvent produisent des espèces de coques qui les rendent un peu moins sensibles aux médicaments destinés à les tuer. On arrive avec les antibiotiques très souvent à surpasser cet état de fait. Hein. Si vous me permettez, je voudrais revenir sur le côté de l'innovation. On a vraiment besoin d'innovation dans le domaine du traitement des maladies bactériennes, ça c'est clair. Hein. Pour ce qui me concerne, je mets les bactériophages comme une des pistes d'innovation, mais avec la nécessité dans l'innovation d'être extrêmement prudent, puisque en médecine, il faut d'abord ne pas nuire. Hein.
Mais est-ce qu'il y a des risques ? Je reviens. C'est pas que je mette antibiotiques et bactériophages comme ça, je veux dire sur le même plan. Oui, c'est simplement que on va voir. D'ailleurs, on terminera l'émission sur est-ce qu'il y a d'autres alternatives possibles. Celle-ci en est une. Question, est-ce qu'il y a des risques connus de la pratique des bactériophages?
Alors, ce sont des produits qui sont utilisés depuis très très longtemps, comme on vient de le dire, hein, depuis pratiquement 100 ans à travers le monde. Depuis une trentaine d'années, c'est essentiellement dans les pays de l'ex-URSS, mais c'était utilisé très largement dans tous les pays européens et aux États-Unis pendant de très nombreuses années, parce qu'il y avait des laboratoires pharmaceutiques, y compris existants encore, qui produisaient ces bactériophages. Donc, on n'a pas montré de d'effets secondaires ni de conséquences majeures écologiques, mais là encore, il faut effectivement être prudent et tout dépend un petit peu du type d'utilisation. Des utilisations ponctuelles pour certains patients ne sont pas les mêmes que de très large utilisation qui pourrait éventuellement voir le jour au niveau, par exemple, de l'agroalimentaire, vétérinaire, pour remplacer éventuellement les antibiotiques dans les élevages. Le problème serait tout à fait différent sur le plan individuel pour traiter des patients. Je pense que on n'a pas montré pour l'instant d'effets secondaires majeurs, mais c'est sûr que c'était avec des produits qui étaient des produits disponibles de l'ex-URSS. Pour le moment, on n'a pas de médicaments utilisables en France, et donc il faudra certainement, quand les produits seront disponibles, mettre sur place une vigilance, une pharmacovigilance, une éco-vigilance pour vérifier qu'il n'y a pas de problème. Mais on est a priori rassuré sur ce phénomène avec l'expérience de l'utilisation très large et ancienne de ces produits.
Donc, Olivier Patel, les phages ont dans la tête un ADN. Il y a une queue qui existe munie de fibres, et en fin de compte, cet ADN va être injecté à l'intérieur de la cellule hôte, c'est-à-dire les bactéries, et qui va se repliquer très vite et donc va la détruire quand ça fonctionne. C'est comme ça que ça peut marcher si on est spécifique. En fait, dans les années qui nous précèdent, on a été dans le milieu hospitalier frappé par quand même le taux élevé des maladies nosocomiales. Préoccupation donc très importante. Qu'est-ce qu'on appelle une maladie nosocomiale ?
C'est une maladie qu'on attrape à l'hôpital. C'est-à-dire que vous rentrez dans un hôpital parce que vous avez une jambe cassée, parce que vous avez un infarctus, une raison ou une autre. Et au cours de votre séjour hospitalier, vous développez une infection. C'est ça qu'on appelle une infection nosocomiale. Et effectivement, comme à l'hôpital, c'est un endroit où on utilise beaucoup d'antibiotiques, pour le plus grand bien des patients, la plupart du temps, les bactéries qu'on a à l'hôpital sont devenues de plus en plus résistantes aux antibiotiques. Hein. Les bactéries, c'est du vivant et ça s'adapte à ce qui se passe autour. Et donc, au cours des années, on a vu ces bactéries qui causent ces infections qu'on arrive à limiter. Hein. Les programmes d'hygiène sont extrêmement efficaces pour limiter les infections nosocomiales. Mais on ne pourra jamais arriver à zéro infection nosocomiale.
Mais parce qu'en fait, ça peut venir du malade lui-même qui peut s'auto-infecter, du personnel, du matériel.
Et puis parce que les traitements, et notamment les traitements les plus modernes de la médecine, fragilisent les patients. Quand vous avez une chimiothérapie, ça vous guérit de votre cancer, mais pendant le temps de la chimiothérapie, vous êtes fragilisé. Quand vous avez une greffe, c'est la même chose. Quand vous avez vous faites un séjour en réanimation, eh bien, vous êtes aussi fragilisé par l'ensemble des manœuvres médicales. Donc, on n'arrivera jamais à empêcher complètement les infections nosocomiales, même avec une hygiène extrêmement bonne.
Mais vous pensez qu'on a progressé ?
Ah, on a beaucoup progressé. Et un des très bons indicateurs de la progression de la lutte contre les infections nosocomiales est que, en France et en Europe, les fameux staphylocoques multirésistants, ceux qui avaient causé ces infections, comme par exemple à ce malheureux garçon de Pardieu, hein, sont beaucoup moins prévalentes. Hein. Et on les voit diminuer grâce à l'hygiène de façon très importante.
Alors justement, l'hygiène, finalement, c'est pas la poursuite de la technologie, mais c'est extrêmement efficace. Et il y a un monsieur qui s'appelle Denis Pittet, qui a développé le gel antibactérien.
Oui.
Et qui a été d'ailleurs fait commandeur en Grande-Bretagne en 2007 pour ça. Et vous évoquez d'ailleurs dans le livre que peut-être il mériterait un prix Nobel.
Pittet est un type exceptionnel qui a remis au goût du jour, en la modifiant un petit peu, une formule toute simple qui est faite d'alcool et d'un émollient pour que les frictions des mains ne soient pas abîmées par l'alcool. Et qui permet de stériliser les mains du personnel entre les patients de façon extrêmement simple. Il est à l'origine, grâce à l'appui de l'OMS, à la dissémination mondiale de cette découverte, dont il a abandonné tous les droits, c'est assez remarquable. Là encore, dans le tiers-monde est capable de faire une différence dans les hôpitaux où les autres moyens d'hygiène sont très faibles.
Parce qu'avant, l'eau et le savon, c'était pas...
Alors l'eau et le savon, ça marche, mais ça marche moins bien. Et le savon, il n'y en a pas partout. Et il y a même des hôpitaux dans le tiers-monde dont on sait que l'alimentation en eau est intermittente.
Bien sûr, et que l'eau elle-même peut être contaminée.
Et l'eau elle-même peut être contaminée.
Donc on n'est pas mieux. Alors moi, ça me fait penser quand même à un autre grand monsieur du genre Denis Pittet, qui est Semmelweis, c'est-à-dire cet hygiéniste, je dirais, hongrois, qui à Vienne a développé la prévention de la fièvre puerpérale, infection qui emportait entre 3 et 10% des accouchés, ce qui était énorme, avec des points.
C'était là encore un type avec une vision formidable. Il a mis en place, il s'est aperçu en arrivant dans un service où il y avait un taux de mortalité chez les femmes qui venaient d'accoucher terrible par ces infections puerpérales. Il s'est aperçu qu'en fait les médecins allaient faire les autopsies et revenait dans les services pour examiner les femmes sans se laver les mains. Et à l'époque, faut se remettre dans le contexte, le lavage des mains n'était pas connu comme étant un moyen de prévention. Il a obligé, dans un service, les médecins à se laver les mains, et le taux des infections a chuté de façon immédiate et extrêmement importante.
C'est-à-dire qu'il avait presque une situation expérimentale, puisqu'il avait deux maternités, une où il n'y avait que les sages-femmes, et l'autre où il y avait les médecins, comme vous venez de le rappeler, Antoine Andremont, qui faisait des autopsies avant. Et donc, c'est ça qui l'a alerté, comme quoi des méthodes de prévention, et ce que nous faisons là dans les gels antibactériens avec Denis Pittet, c'est aussi une façon de limiter, c'est extrêmement important. Et donc, il s'est rendu compte que si il y avait un lavage de mains, il n'avait pas les gels, mais il faisait laver les mains, il y avait effectivement une chute. Mais après, il a été très contesté. Et le comble de l'histoire, si je puis dire, de Semmelweis, c'est que il est apparemment mort d'une infection. Il s'est coupé et il est mort d'une septicémie, lui qui a tellement lutté contre l'infection. Voilà. Bon, ça, c'est pour les histoires. Je dirais qu'ils sont passionnants d'ailleurs, des découvertes et des autres développements. Donc on est sur une nécessité de prévenir justement donc cette résistance, ces infections et la résistance aux antibiotiques. Il y a d'ailleurs une association sur les maladies nosocomiales, le Lien, qui essaye d'alerter justement et d'être très présent dans toute cette optique. Vous pensez que l'humain est un problème en soi, on vient de le voir, sur le risque de résistance, mais on ne le limite pas à l'humain. En fait, on est confronté à des problèmes beaucoup plus vastes.
Oui, si vous voulez, au début des années 50, ça s'est montré tellement efficace chez les humains, les antibiotiques, que les vétérinaires et puis les éleveurs se sont mis à les utiliser aussi pour traiter les animaux, et puis pour prévenir les infections chez les animaux. Ça a été concomitant avec le changement de type d'élevage. On est passé des petits élevages dans les fermes familiales à des élevages industriels. Dans les élevages industriels, les animaux sont un peu tassés les uns sur les autres, et donc ils se transmettent facilement des infections. Et donc, vu l'efficacité des antibiotiques et leur apparente innocuité, on s'est mis à en utiliser de façon préventive chez les animaux pour les empêcher de faire des infections. Et on s'est même aperçu, et c'était assez extraordinaire, que les antibiotiques, ça faisait grossir les animaux. Quand vous leur donniez un petit peu d'antibiotiques, ils grossissaient plus. Et la pratique est devenue mondiale de donner des antibiotiques aux animaux d'élevage pour augmenter la rentabilité des élevages. Et malheureusement, on s'est aperçu que cette pratique était aussi génératrice de résistance de façon extrêmement importante.
Bien sûr.
Alors, il y a des efforts considérables qui sont faits aujourd'hui, et c'est probablement là où il faut porter un effort tout particulier. Il faut réduire cette consommation des antibiotiques chez les animaux quand elle n'est pas nécessaire. Vous avez rappelé tout à l'heure... que les dernières lignes de l'antibiothérapie venaient de lâcher en Chine vis-à-vis de la colimycine à partir de souches isolées chez les porcs. Et c'est pour nous un problème majeur. C'est-à-dire que certes, on a besoin d'innovation pour soigner les patients qui ont besoin de nouveaux antibiotiques, mais on a surtout besoin de diminuer la consommation des antibiotiques au niveau mondial, ce qui est très compliqué, parce que, notamment, les antibiotiques sont produits largement dans le tiers-monde.
On va revenir sur ce problème à l'échelle planétaire. Juste pour dire que l'enquête que choisit en 2014 sur des jambons ou des dindes, je veux dire, ont analysé la présence, hein, je dirais, de bactéries résistantes. Donc c'est pas uniquement une vue de l'esprit. On est vraiment confronté à ce problème, mais on va quand même écouter un peu de Handel pour se détendre.
France Culture, Révolution médicale, René Friedman.
Vous êtes toujours sur Révolution Médicale avec Antoine Andremont et Olivier Patay, en collaboration avec notre partenaire Le Quotidien du Médecin, où un certain nombre de questions peuvent être posées, des réponses par nos invités sont faites. Réponses autour de la résistance aux antibiotiques, puisque c'est le thème de notre émission, malgré le franc succès de ces médicaments qui ont pu sauver un nombre incalculable de vies. Nous rentrons peut-être aujourd'hui dans une mauvaise prescription. En tous les cas, des précautions doivent être prises pour ne pas favoriser ce que l'on découvre de plus en plus, c'est-à-dire des résistances aux différents antibiotiques qui peuvent amener à faire des recherches d'alternatives ou de complémentarité d'ailleurs, soit au niveau de ce que nous avons vu avec les phages, soit d'autres thématiques que nous reprendrons un petit peu tout à l'heure. Alors, sur cette résistance aux antibiotiques, pourquoi, Antoine Andremont, vous avez été voir les Indiens Wayampi?
Il faut bien voir que les bactéries et nous vivons ensemble depuis la nuit des temps, enfin depuis que l'homme est sur Terre. Les bactéries sont là depuis mille fois plus longtemps que nous. Et nous-mêmes, sur notre peau, dans notre bouche, surtout dans notre tube digestif, nous avons et nous vivons en bonne intelligence avec de très très nombreuses bactéries. Et chacun sait, quand il prend une dose d'antibiotique, on sent bien que ça gargouille dans le ventre, pour dire simplement. Et qu'est-ce que ça veut dire, ces gargouillis? Ça veut dire que les antibiotiques vont en partie détruire votre flore intestinale. Parfois avec un peu de diarrhée, parfois avec des colites beaucoup plus graves. Et ça met bien en évidence comme il y a un rapport très intime entre l'homme et les bactéries. Et quand vous prenez des antibiotiques, que ce soit à bonne ou à mauvaise escient, vous soyez un cochon, une poule ou un humain, il y a une partie de votre flore qui va devenir résistante parce qu'elle a reçu des antibiotiques. Et c'est ça, actuellement, le problème principal de l'antibiorésistance, c'est qu'à chaque utilisation, on impacte, comme on dit, la flore normale, la flore commensale. Et les bactéries deviennent globalement un petit peu plus résistantes et disséminent dans l'environnement. Alors, c'est à partir de ce constat que un certain nombre d'innovations aussi peuvent être faites, hein, en essayant d'empêcher cet aspect d'impact sur la flore intestinale. Et il y a là aussi des nouveautés qui sortiront probablement dans les années qui viennent.
Alors, les Indiens Wayampi.
Alors, les Indiens Wayampi, c'est un endroit assez extraordinaire. On est en France, hein, puisqu'on est à trois sauts au sud de la Guyane. Et il y a un dispensaire au milieu de ce village. Et dans ce dispensaire, toutes les prescriptions d'antibiotiques qui sont faites par un infirmier qui est là résident sont notées sur un carnet de santé. Donc on a un suivi épidémiologique de tout ce qui a été utilisé comme antibiotique dans le village depuis fort longtemps. Et on peut regarder ce que ça fait sur les bactéries des Indiens, les bactéries des animaux qui vivent dans la forêt autour du village. Donc c'est une espèce de laboratoire, en fait, écologique, qui permet de voir quel est l'impact de l'utilisation des antibiotiques sur l'homme et sur son environnement.
Et alors, qu'est-ce que vous avez pu voir que ça pouvait augmenter, mais que ça pouvait aussi diminuer?
Ce dont on s'aperçoit, finalement, je dirais que c'est relativement rassurant. On s'aperçoit que dans les années où il y a moins d'antibiotiques utilisés dans le village, il y a moins de résistance dans le village. Que les animaux sauvages de la forêt qu'on piège très rapidement dans la forêt, on ne voit plus d'impact sur la résistance. Et donc, si on contrôle la consommation des antibiotiques, on va très rapidement résoudre le problème des résistances. Finalement, cette observation qu'on a fait sur 10-15 ans là dans ce village sont extrêmement optimistes quant à l'efficacité de la réduction de la consommation des antibiotiques. Et moi-même, ça m'a complètement convaincu que c'était là qu'il fallait faire porter l'effort principal, en France et dans le monde, la réduction de la consommation indue des antibiotiques, le surusage chez l'homme et chez les animaux.
Alors, vous avez raconté l'histoire naturelle d'un bébé qui vient au monde, hein, qui va se contaminer, entre guillemets, progressivement, puisque en fin de compte, quand il est dans le milieu amniotique, il est stérile. Il est dans un milieu stérile. Et il va, le premier méconium, les premières selles du bébé, souvent noires, vont être stériles. Et puis, il va se contaminer jusqu'à, on va dire, à peu près acquis à l'âge de 3 ans. Question, est-ce que césarienne ou voie basse, il y a quelque chose qui va jouer sur l'évolution du bébé?
C'est un sujet en pleine étude. Il semble que ça fasse réellement une différence, puisque les premiers microbes qu'on rencontre normalement, c'est ceux qu'il y a dans la filière vaginale de sa mère, quoi, quand on la traverse. Et ça, on n'a pas ça quand on est par césarienne. C'est trop tôt pour dire quelles sont les conséquences à long terme. Mais il y a un certain nombre de gens qui pensent que ça en a. De même,
il y a des études sérieuses qui sont faites.
Oui, il y a des études extrêmement sérieuses qui sont en train d'être faites là-dedans. Mm-hmm. Et de même, les traitements antibiotiques qu'on donne en pédiatrie sont extrêmement efficaces contre un certain nombre d'infections bactériennes des enfants. Et il faut les donner quand les enfants en ont besoin, pas tout le temps, mais quand les enfants en ont besoin. Mais il ne faut pas en abuser, parce que là aussi, les modifications de la flore intestinale qui résultent de ces traitements antibiotiques, surtout quand ils sont répétés, peuvent avoir des conséquences à long terme sur l'immunité, sur le métabolisme et peut-être sur l'obésité.
Donc, tout le monde est d'accord pour faire un bon usage des antibiotiques. Olivier Patay, qu'est-ce que vous faites dans votre service d'une façon générale sur cette thématique?
C'est un bon usage à la fois quantitatif et qualitatif. Je crois que ça aussi c'est important. Et on essaye effectivement de réduire la consommation non seulement dans le service des maladies infectieuses, mais également dans l'ensemble de l'établissement, comme c'est le cas dans beaucoup d'établissements, par des équipes mobiles d'infectiologie qui vont au devant des traitements, passant par la microbiologie pour récupérer les examens et ensuite, un petit peu prêcher la bonne parole et apporter les bonnes références et les bonnes utilisations des antibiotiques dans les différents services de l'établissement.
En fait, c'est à quelle dose? Enfin, d'abord, est-ce que c'est nécessaire? Ensuite, à quelle dose et combien de temps? C'est trois questions qu'on retrouve
fondamentales dans
le livre d'Anne-Claude Crémieux du bon usage des antibiotiques.
Et puis, la classique réévaluation à 48 heures, ce qui permet d'avoir déjà un premier barrage qui devrait être systématique.
C'est barrage, vous voulez dire?
Pour essayer d'éviter la surconsommation. Ça permet d'avoir un premier contrôle de l'utilisation du bon usage des antibiotiques.
Alors, dans ce livre de Stuart Levy, Le paradoxe des antibiotiques, qui date un tout petit peu, mais vous avez, Antoine Andremont, mis quelques mots, je dirais, de préface. Déjà, et c'est déjà la préoccupation qu'on évoque d'une bonne prescription.
Stuart Levy a vraiment été un fantastique précurseur. Il a eu la vision très précoce des mauvaises conséquences au niveau mondial de l'utilisation des antibiotiques. Si vous voulez, il y a un vrai problème de communication pour faire comprendre les risques de l'antibiorésistance. Actuellement, on est un peu dans une période où on pourrait dire que la mer est tout à fait calme et il y a des poissons, des hippocampes, je sais pas quoi, qui se promènent au-dessous, mais on les voit pas, ces animaux pouvant être des bactéries résistantes. Et puis, de temps en temps, ils vont émerger au-dessus de la surface, surtout quand on va dire que le manque d'antibiotiques va faire que le niveau de la mer va baisser, donc ils vont émerger de plus en plus, sauter et là causer des infections. Et Stuart Levy a vraiment compris ça et essayé d'alerter sur ça avant tout le monde, a réussi à le faire avec des échecs et des succès. Mais il y a un vrai problème de communication qu'il faut faire comprendre.
Est-ce que le premier antibiotique a été à la COP21?
Alors, il n'a pas été à la COP21 parce que c'était probablement un petit peu tôt. Et pourtant, il y a des similitudes extrêmement importantes entre le développement de l'antibiorésistance et d'autres problèmes écologiques comme le réchauffement climatique. Et là aussi, encore une fois,
c'est... Qu'est-ce que vous voulez dire, que le réchauffement climatique favorise la résistance?
Non, je veux dire que c'est la même chose. Les antibiotiques sont un produit industriel qui a d'abord été développé dans les pays du Nord, inventé et développé dans les pays du Nord, puis largement transféré dans les pays du Sud, où maintenant sont les usines qui fabriquent les antibiotiques. Il n'y a plus d'usines d'antibiotiques en France. Tout est dans les BRICS, enfin dans ces économies émergentes. Et là, vu que les antibiotiques sont très bon marché parce que ce sont tous des génériques, ils sont produits et consommés de façon extrêmement importante. Et donc c'est dans ces endroits où les bactéries sont les plus résistantes. C'est là où les populations vont être, comme très souvent, d'abord impactées. Je pense aux femmes qui font des pyélonéphrites en Inde ou en Afrique, pour lesquelles les antibiotiques ne sont plus efficaces. Aux enfants qui font des infections néonatales, pour lesquelles les antibiotiques ne sont plus efficaces. Et une des choses qui est, je crois, dans notre mission aujourd'hui, c'est de faire comprendre que ce nouveau risque est d'une nature très différente d'une simple épidémie, comme on peut voir avec avec Ebola, par exemple, pour prendre un exemple récent. On va avoir beaucoup plus de mal à se débarrasser de la résistance des bactéries aux antibiotiques que d'un virus, comme celui que je viens de citer, parce que ça atteint le monde bactérien en général, que ça n'est pas spécifique à l'homme, mais que ça atteint aussi les animaux, et que c'est intimement lié à des problèmes de développement industriel.
Cette surprescription, cette mauvaise prescription, vous pensez qu'on devrait, politiquement, j'ai envie de dire, modifier un peu les choses ? On pourrait ? Est-ce qu'il y a eu des plans ? Par exemple, aux USA, il y a eu des mouvements pour essayer de je ne sais pas si le Gain Act là de Obama en 2013.
Oui, alors effectivement, les Américains ont mis pas mal d'argent sur la table, essayent de développer plus rapidement les médicaments. Les Anglais aussi. Ici, chez nous, Marisol Touraine a demandé un rapport qui a été remis et notre collègue.
Et qui
Le professeur Brimbuisson vient d'être nommé délégué à l'antibiorésistance. C'est une avancée majeure. Mais le plus important, me semble-t-il, c'est que en 2015, l'Organisation mondiale de la santé à Genève a publié pour la première fois un plan global de lutte contre l'antibiorésistance. C'est-à-dire que au niveau international, maintenant, l'antibiorésistance est reconnue depuis l'année dernière, c'est très récent, comme un des gros problèmes de santé publique. Et on dit que l'Assemblée générale des Nations unies, en septembre prochain, aura l'antibiorésistance à son agenda.
Donc, sur les alternatives, Olivier Patek, quelle est la législation actuelle ? Peut-on, ne peut-on pas utiliser les phages dans un cadre de clinique ou un cadre de recherche ?
Alors, dans un cadre clinique, actuellement, les seuls bactériophages disponibles sont des bactériophages qui proviennent de Géorgie ou de Russie, pour lesquels il n'y a pas d'autorisation d'utilisation dans les pays d'Europe de l'Ouest, soit la France ou les autres pays. Donc, il n'y a pas d'utilisation théorique possible et certains laboratoires, il y a notamment une start-up qui commence à travailler sur la recherche en phagothérapie, qui a produit déjà deux cocktails de bactériophages contre le bacille piocyanique et le colibacille, et qui sont actuellement utilisés dans le cadre d'un essai thérapeutique qui s'appelle Phagoburn chez les brûlés. Donc ce sont les deux seuls produits qui sont actuellement autorisés par l'Agence du médicament en France.
Dans le cadre d'un essai.
Dans le cadre d'un essai, et avec la possibilité depuis quelques jours d'utilisation potentielle, d'autorisation temporaire d'utilisation, toujours dans un cadre bien précis, réglementaire par l'Agence du médicament. Alors, il y a d'autres études qui sont actuellement en cours, notamment vis-à-vis du staphylocoque, qui nous paraît être une cible particulièrement importante de ces bactériophages, mais qui est actuellement encore au stade de recherche clinique, mais qu'on espère voir très très prochainement au stade de préclinique, pardon, et qu'on espère voir très prochainement au stade de recherche clinique pour pouvoir débuter des essais thérapeutiques chez l'homme.
Donc, vous travaillez avec le docteur Dublanchet.
Tout à fait.
Hein, sur cette thématique de mise en œuvre dans un cadre légal, bien sûr. Et nous avons donc aussi, est-ce qu'il y a une recherche sur des nouveaux antibiotiques ou est-ce que ça s'est arrêté ?
Oui, alors ça, c'est assez formidable parce que après que l'industrie pharmaceutique ait abandonné la recherche sur les nouveaux antibiotiques, dans les années 80, on pensait qu'on n'avait plus besoin de nouveaux antibiotiques. On sent un renouveau pour avoir des nouveaux antibiotiques. Mais je dirais des nouveaux antibiotiques, certainement, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire que si on produit des nouveaux antibiotiques et qu'on se met à les utiliser de la même façon qu'on a utilisé les anciens,
On va recréer
exactement la même chose et le faire très rapidement. Il faut donc arriver à trouver des systèmes de développement, et notamment économiques, qui permettent d'avoir des nouveaux antibiotiques qui ne soient pas surutilisés pour rentabiliser la recherche.
Mais est-ce que la voie d'administration facile, Perros, n'est pas une incitation à les utiliser ?
Bien entendu. Mais on est toujours entre les deux. Quand, quand on peut avoir un médicament par la bouche, c'est quand même beaucoup mieux que d'être obligé de faire des injections aux patients. La question, c'est que le médicament soit par la bouche ou qu'il soit par voie veineuse ou intramusculaire, ce qui est important, c'est de ne l'utiliser que chez les patients qui en ont vraiment besoin. Et donc,
Et vous disiez tout à l'heure, et peut-être faut-il le répéter, les maladies virales n'ont pas besoin d'antibiotiques.
Et les maladies virales n'ont pas besoin de... le paludisme non plus n'a pas besoin d'antibiotiques. Et donc, il faut probablement développer beaucoup ce qu'on appelle des tests diagnostiques. Et on manque terriblement au jour d'aujourd'hui de tests simples où on pourrait savoir si tel ou tel patient a besoin d'un antibiotique d'abord, et s'il en a besoin, de quel antibiotique il a besoin. Et il y a un besoin d'innovation dans ce domaine qui, à mon avis, est au moins aussi important que dans le domaine de nouveaux antibiotiques stricto sensu.
Alors les USA avaient fait un projet, 10 nouveaux antibiotiques pour 2020. Une espèce de...
Ah, c'est une formule formidable.
Hein, voilà. Pourquoi pas?
Pourquoi pas, bien sûr. Mais encore une fois, comment allons-nous les utiliser? Et on connaît tous les limites du traitement purement médiatique des problèmes de santé publique.
Alors, vous avez insisté l'un et l'autre sur le fait que nous vivons normalement en bonne harmonie avec des milliards de bactéries, particulièrement sur la peau et dans les intestins, et que de temps en temps, la présence donc de bactéries peut basculer une forme d'infection par rapport à une forme de tolérance, sans aucune. D'ailleurs, en gynécologie, on fait donc systématiquement depuis quelques années un prélèvement vaginal avant l'accouchement. Lorsque la femme est porteuse d'un streptocoque B, ce qui arrive à des gens très bien qui n'ont aucune infection, mais elle est simplement porteuse, on va donner des antibiotiques au moment de la naissance pour éviter que l'enfant le chope au passage. Et donc c'est un dépistage du fait qu'on peut être porteur, et on est porteur les uns les autres de tout un tas de petites bestioles, on va dire. Et d'ailleurs, ça se passe donc dans la famille, on l'a vu comment ça se passe progressivement. Et il y a Rob Knight qui a écrit un livre sur le grand pouvoir des bactéries, et il fait une dédicace assez drôle. Il dit à mes parents, pour leurs gènes, pour leurs idées et pour leurs microbes. Donc voilà, c'était une façon de montrer qu'on vit avec, qu'on doit vivre avec, mais qu'il faut pas créer le déséquilibre, et que le déséquilibre peut être dans une mauvaise prescription. Qu'est-ce qu'on a d'autres comme alternative? Vous voulez dire quelque chose?
Juste un petit clin d'œil concernant la phagothérapie, parce qu'on a parlé de l'écosystème homme-bactérie. Il y a un deuxième écosystème qu'on a en nous, c'est l'écosystème bactérie-bactériophage, qui est pas bien connu. Et on sait que là où il y a des bactéries, il y a des bactériophages, et qu'on a 10 à 100 fois plus de bactériophages en nous que de bactéries. Donc là, je pense qu'il y a aussi des choses intéressantes
à comprendre.
Voilà. Oui, d'autant plus que ces bactériophages dont parle Olivier Patès sont des vecteurs d'antibiorésistance, c'est-à-dire qu'une des façons classiques pour une bactérie d'apprendre à devenir résistante, c'est de récupérer par l'intermédiaire d'un bactériophage des systèmes de résistance à partir d'une autre bactérie. Et cet aspect très intime la liaison entre les bactéries, les bactériophages et la résistance doit certainement être étudié, comme le dit Olivier Patès, avec beaucoup de justesse, de façon très intense.
Est-ce qu'il y a d'autres pistes? Parce qu'on a aussi au tout début, d'ailleurs des antibiotiques, il y avait un mouvement qui était plutôt... Non, c'est la vaccination qui compte et pas le traitement des antibiotiques. Pasteur lui-même, d'ailleurs, avait commencé à travailler sur le bacille du charbon. Et puis comme son assistant avait développé la vaccination anti-charbon pour les animaux, ça s'est arrêté.
C'est toujours vrai.
Et c'est toujours vrai.
C'est toujours vrai, et on peut espérer que dans les moyens de lutte contre les bactéries résistantes, il y aura des nouveaux vaccins qui vont se développer. Je pense que il vaut toujours mieux avoir un vaccin que de courir après le traitement d'une infection grave.
Et qu'est-ce que vous avez comme information sur les nanoparticules d'oxyde de fer pour briser justement le biofilm des bactéries? Est-ce que vous pensez que c'est une piste intéressante?
Alors, je pense que tout ce qui tourne autour des nanotechnologies commence à être regardé avec beaucoup d'attention dans le domaine de l'antibiorésistance. Avec Patrick Couvreur de la faculté de pharmacie de Châtenay-Malabry, on avait pas mal travaillé là-dessus il y a quelques années. Et effectivement, ces petits vecteurs de molécules actives vont probablement avoir des indications. Il y a une recherche qui se développe là-dedans, et c'est comme dans les autres domaines de l'innovation, c'est très difficile au jour d'aujourd'hui de dire ce qu'on aura sur le marché dans 5 ans. Quoi.
Et les recherches qui se font sur les modes de culture des bactéries, en particulier sur ce qu'on appelle les chips, est-ce que vous pensez que ça permettra de donner du matériel à tester?
Alors, ce qui semble se dessiner, mais là encore, on est dans l'exploratoire et dans la recherche, ce qui semble se dessiner, c'est un grand mouvement vers l'utilisation de bactéries commensales, de bactéries normales, pour contrecarrer les bactéries résistantes, notamment dans le tube digestif. Et il est probable que dans les années qui viennent, là je dirais, je suis assez confiant dans cette voie-là, qu'on aura des mélanges de probiotiques beaucoup plus efficaces que ce qu'on a aujourd'hui dans un certain nombre de situations pour prévenir des infections bactériennes.
Vous avez dans le livre Antibiotiques, le naufrage, une préface de Bernard Kouchner qui est très sensible avec vous sur, justement, vous l'avez cité plusieurs fois, ce qui se passe dans les pays émergents.
Oui.
Hein, où là, vous avez insisté sur l'agroalimentaire, sur le vétérinaire et l'humain, bien sûr, cette diffusion non contrôlée, en tous les cas, des antibiotiques qui aboutissent à augmenter cette résistance. Est-ce qu'en France, l'Institut de veille sanitaire est centré sur cette possibilité?
Je ne sais pas quelle est l'implication de l'INVS dans les problèmes du tiers-monde. Il y a autour d'associations comme notamment Médecins Sans Frontières, des travaux d'extrêmement grande qualité qui sont faits sur l'antibiothérapie dans le tiers-monde. Ils ont publié il y a un mois dans la plus grande revue de médecine un superbe essai de diminution de l'utilisation systématique des antibiotiques chez les enfants dénutris. Et je pense qu'ils ont créé des réseaux qui sont particulièrement efficaces et de très grande valeur scientifique.
Donc, on peut dire, avant que je vous laisse conclure, on peut dire, les antibiotiques, c'est pas automatique. On peut reprendre cette phrase qui était lancée en 2001, qui devrait être lancée d'ailleurs officiellement, je trouve, parce que ça passe vite, hein, les messages. Petite phrase de conclusion, Olivier Patel.
Oui, on a parlé de la sélection, là, un petit peu des bactéries résistantes, mais pour reparler du tiers-monde et en particulier de l'Asie du Sud-Est, il y a aussi après la diffusion et la promiscuité, la surpopulation sont certainement aussi des éléments très importants avec la mondialisation, un petit peu la circulation des gens, de la diffusion de ces bactéries
voyages,
résistantes. Et c'est vrai que, donc aujourd'hui, il faut essayer d'avoir le maximum de possibilités thérapeutiques pour les patients. Et bon, il y a des nouveaux antibiotiques et je pense que les bactériophages auront certainement une place qui reste à définir, qui ne sera pas que l'alternative. Hein. Il y aura aussi des indications, notamment des associations avec les antibiotiques. On sait qu'il y a
peut-être des complémentarités qui ont développé. Mais ce que vous insistez là, et ce que Antoine Dendremont insiste aussi dans son livre, c'est le fait que avec les voyages, je veux dire, on va devoir détecter beaucoup de choses, toutes les armes qui passent, mais aussi les bactéries résistantes, peut-être demain, sous les portiques des nouveaux aéroports. En tous les cas, c'est un vrai problème. Une phrase de conclusion,
oui,
peut-être.
Moi, je dirais le grand changement en 2015, c'est la publication par l'OMS d'un plan global pour l'antibiorésistance qui met l'action au niveau où elle doit être, c'est-à-dire au niveau mondial et pour protéger d'abord les populations les plus exposées, que ce soit les gens du tiers-monde, des pays émergents, et puis les patients des hôpitaux qui souffrent d'infections
fragiles. Cette émission, un Révolution Médicale, a été préparée avec la collaboration de Catherine Donnet, réalisée par Dany Journeau, avec Philippe Palares à la prise de son. Cette émission est en collaboration avec le quotidien du médecin, et vous pouvez retrouver les réponses qui ont été posées à nos invités sur le site du quotidien, lequotidiendumédecin.fr. Mais vous pouvez aussi réécouter cette émission sur le site internet de France Culture, franceculture.fr et sur le site de cette radio formidable. Demain, comme tous les jours à 16h, vous avez rendez-vous avec Culture Science. Retrouvez Planète Terre de Sylvain Kahn.